Regarde, Betty, une pâquerette.
C'est un bon endroit pour nous installer.
La pâquerette est une plante très rustique formant des touffes denses. Espèce commune, cycline à calcycline, elle fleurit toute l'année, mais surtout de mars à novembre.
Aura des pâquerettes.
Toutes ces herbes folles.
Engrais. Parfaitement naturel.
On va arroser ça.
Mais non, les pâquerettes ne chantent pas, même si elles sont folles.
Aura des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Aura des pâquerettes.
Bonjour à toutes et à tous, vous qui écoutez ces ondes radio par-delà les montagnes et vallées qui composent cette belle région d'Auvergne-Rhône-Alpes, bienvenue dans cet nouvel épisode de Aura des pâquerettes, l'émission qui quoi déjà ?
Écoute, c'est incroyable, insensé, vraiment, assieds-toi, tu vas voir, écoute.
Aura des pâquerettes ?
Aura des pâquerettes ! L'émission qui prend de la hauteur.
Tous les trucs qu'il a ici.
Waouh ! Mais waouh, c'est super comme ça.
Aujourd'hui, c'est nous, Radio d'ici, qui vous emmenons dans ces belles prairies radiophoniques où cueillir pâquerettes et belles idées. Pour commencer, quoi de mieux qu'une mise en contexte ? Vous êtes aujourd'hui conviés à rejoindre le QG de la crème de marron et de la montgolfière à Nenay, en Ardèche. C'est ici que les gens se plaisent à faire toutes sortes de festivals, et ça tombe bien, c'est tout le sujet de l'émission d'aujourd'hui, le festival 100% électro.
Aura des pâquerettes.
Aura des pâquerettes.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour sa première édition, nous avons invité toutes les têtes pensantes autour de la table de Radio d'ici. Et pour présenter les tenants et aboutissants de ce festival, qui de mieux que Anne Saunier, chargée de la culture, à Annonay-Ronaglo, pour s'occuper de cette présentation. Alors, comment ça a débuté tout ça ?
On s'est mis plusieurs autour de la table pour concocter. Tout seul, on va plus loin et ensemble, on va plus vite. Non, c'est l'inverse. Comme on voulait aller plus loin tous ensemble, et ben on s'y est mis à plusieurs. Donc, on a organisé un événement qui s'appelle 100% électro et qui est donc dédié à la culture électro dans toutes ses formes. Donc, surtout principalement la danse et la musique, bien sûr, à Annonay, capitale du cool. Et donc, autour de la table, une belle tablée d'invités avec Fabien Lelarge, donc directeur de la Maison de la Musique et des Pratiques Amateurs.
Bonjour.
Et bien sûr aussi, Pierre Tabardel, donc directeur de la SMAC 07.
Ben bonjour à tous.
En voilà une belle introduction, mais maintenant, il serait peut-être temps de nous dire qu'est-ce que c'est que ce festival 100% électro, même si on imagine qu'il y a un indice dans le titre.
C'est de rendre plus accessible la musique électro et de la vulgariser, en tout cas de la rendre au grand public. Et donc oui, la première soirée de cet événement 100% électro sera consacrée à une conférence et à une soirée cinéma à la MJC d'Annonay. Donc c'est un peu une soirée qui illustre le partenariat de l'année entre la MJC et le conservatoire. Donc il y a un spécialiste qui s'appelle Philippe Brodu, que tu vas nous présenter, Fabien.
On a cherché un conférencier qui pouvait aborder l'histoire des musiques électroniques sans rentrer dans de la musicologie pure et dure, c'est-à-dire réservée à peut-être une forme d'élite, mais plutôt à un vulgarisateur. Et Philippe Brodu a travaillé pour des grandes marques de matériel musical au niveau international. Il travaille également avec une entreprise française qui est développée dans du hardware et du software, donc des instruments physiques et des instruments numériques. Une entreprise française installée à Grenoble qui s'appelle Arturia. Donc Philippe connaît sur le bout des doigts, on va dire, tout ce qui fait la musique électronique, donc c'est-à-dire la production, mais aussi la réalisation. Il enseigne dans des universités, il intervient dans des BTS audiovisuels. Et il intervient assez régulièrement pour présenter les musiques électroniques, mais un peu sur le biais qu'on attend. Et en fait, là, l'attente, nous, conservatoire, et aussi, je pense, à la MJC, c'est aussi aller à la rencontre, nous, du public, des conférences habituelles que peuvent accueillir la MJC, que nous, on commence aussi à mettre en place sous forme trimestrielle, en vulgarisant les musiques électroniques. Et là, le parti pris, c'est une vision historique, c'est-à-dire la musique électronique est née de création et est née d'instruments. Donc, il va partir des instruments préhistoriques de la musique électronique et va balayer tout le XXe siècle Donc Philippe Bredu, voilà, va présenter de manière assez simple mais très riche.
On fonce directement à la MJC de la Donnée où se tient cette fameuse conférence tenue par Philippe Bredu sur l'histoire de la musique électronique. Malheureusement, on ne vous délivre là qu'un extrait de la conférence, mais de quoi vous donner une idée de ce qu'il s'y est dit.
Je vais vous parler très rapidement de moi, parce que c'est pas le plus intéressant. Donc, moi, j'ai commencé, en fait, en travaillant pour une marque qui s'appelait Imagic, une marque allemande qui avait un logiciel qui s'appelait Logic Audio. Ce logiciel a été acquis par Apple. J'ai donc travaillé pendant 2 ans après avec Apple. Puis, je suis parti dans le home cinéma, qui est ma deuxième passion, hormis les synthétiseurs. Donc ça, c'est quelques personnes avec qui j'ai pu travailler pendant ma carrière. Et en fait, je suis revenu à la musique. La musique, c'était quand même vraiment ma passion. Et je suis revenu dans la musique. J'ai travaillé avec Avid pour Pro Tools. Ça a duré 3 ans à peine, et là j'avais l'opportunité de prendre le poste de directeur d'une marque qui s'appelle Korg pour les synthétiseurs, et puis derrière j'ai enchaîné avec Arturia, et donc pendant ces 10 dernières années, puisque je suis récemment retraité, j'ai travaillé pour Korg et Arturia en tant que directeur en France dessus. Alors j'avais toujours une étiquette commerciale sur le front, ça me gênait beaucoup, puisque j'ai toujours fait par passion, et moi je parlais surtout technique, et quand j'avais mes rendez-vous au Japon, ou chez Arturia, qui est une marque française, c'était surtout pour parler développement produit et les chiffres d'affaires, je laissais ça au directeur commercial. Voilà, donc ça c'était juste pour faire le point dessus. On va parler donc de synthétiseur, de l'histoire du synthétiseur. Déjà, pourquoi ? En fait, c'est intéressant parce que la question c'est pourquoi on en est là aujourd'hui ? Les instruments que l'on a dans les mains, ils ont tous une histoire, ils ne sont pas là par hasard. Donc on va parler un peu de tout ça et bien sûr voir ces instruments après rapidement. Et bien sûr, on va parler aussi des artistes qui nous ont amenés aux instruments que l'on a aujourd'hui. Si on a de la techno aujourd'hui, du rap, etc., avec des samplers, tout un tas de choses, c'est qu'il s'est passé des choses avant pour y arriver. Donc on va parler de tout ça. Alors, synthétiseur, c'est un mot abstrait pour beaucoup de gens. Peu de gens savent ce qu'est un synthétiseur. Ce matin, je suis allé chez la coiffeuse ici à Nonay, puisque je me suis dit que je suis à peu près présentable pour monter sur l'estrade. Et je lui dis, je vais faire une conférence. Ah ouais, c'est une conférence de quoi ? Sur les synthétiseurs. Pof, la conversation s'est arrêtée. Mais c'est le truc, ça fait peur aux gens, le synthétiseur. Et pourtant, c'est ça qui est incroyable, c'est que les synthétiseurs sont partout. Mais vraiment partout. Dans les musiques de films, vous allumez la radio, vous regardez une série sur Netflix. Quoi que vous fassiez, vous entendez en permanence des sons de synthé. Alors, dans les styles de musique, par exemple, bien sûr la musique planante, l'électro, techno, bien évidemment, la synthwave, ça c'est les années 80, donc qui était couverte de synthé, rock, metal, rap, hip-hop, indie. Alors bien sûr au cinéma, bien évidemment, la science-fiction, je crois que c'était le premier domaine où on a entendu des sons de synthétiseurs ou d'instruments électroniques, même avant le synthétiseur. Les thrillers, l'action, les drames, les films d'horreur, enfin tout, en fait tous les styles de musique, on a du synthé. Dans les séries télé, je pense à Netflix entre autres, si vous regardez des thrillers sur tout ce qui vient de Scandinavie, en général, on a ce qu'on appelle du droning, c'est-à-dire que c'est même plus de la musique avec des suites mélodiques, c'est juste des charges harmoniques qui se tordent pour vous poser une ambiance, et plus la personne approche, plus on entend le son qui sort, qui va donner ce côté un peu dramatique dans le document, et c'est entièrement fait, bien évidemment, au synthé. Alors, science-fiction, on va prendre quelques exemples, et là, ça peut y avoir des choses intéressantes. 1956. Ce fut le premier film où l'on entendait des sons électroniques fait par des instruments qui ne s'appelaient pas encore les synthétiseurs. Et alors là, il y a une chose qui est quand même intéressante. Voilà un arrêt sur l'image, et ça c'est intéressant. Quand ce film est sorti en 1956, Electronic Tonality by Louis et Bébé Baron. C'était parce que le syndicat du cinéma s'était opposé au fait que ce soit marqué musique. C'est la première fois qu'il y avait des sons électroniques, pour eux c'était juste insensé et c'était pas possible, ça ne pouvait pas être appelé de la musique. Donc c'était des sons électroniques qui étaient dessus. Et alors, mais qui sont ces personnes, Louis et Bébé Baron ? Ben en fait c'est un couple, et qui, le synthétiseur, n'existait pas encore, pas sous la forme telle qu'on le définit. C'était des petites boîtes électroniques que Louis Baron construisait. Et en fait, lorsqu'ils avaient déménagé, ils venaient du Minnesota, hein, et quand ils ont emménagé à New York, le cousin de Louis Baron lui a offert le premier magnétophone à bande. Magnétophone à bande qui est apparu en 1931. Aussitôt, ils ont vu l'intérêt de ce qu'ils pourraient en tirer. son épouse, Bébé, enfin c'est son surnom, aussitôt s'est mise à enregistrer et lui fabriquait des modules et il triturait des sons et il les enregistrait. Et ça, jusqu'au moment où les modules les détruisaient, c'est-à-dire que les condos tenaient pas le choc, etc. Ça fondait, ça brûlait, mais ils enregistraient tant qu'ils pouvaient des sons avant que les appareils crament. Voilà, c'était ces gens-là et c'était leur musique qui était utilisée. Donc la production du film s'est dit, c'est exactement les sons que l'on veut pour la planète interdite, les a contactés et ils ont fait donc cette musique dans ce film où tout le monde découvrait les sons électroniques. Je continue dans le cinéma. La RP 2600, on en parlera tout à l'heure. Power's back. Donc voilà, tous les sons de Star Wars, bien sûr, tous les bruitages sont faits au synthé. Dans un autre style, complètement différent. Avec le Yamaha CS80, le son iconique de Vangelis. Là, on a parlé des films. Donc, vous voyez, c'est quand même amusant. On a vu un premier film où c'était avec des boîtiers électroniques en 1956, avant que le synthétiseur existe. Puis on a vu Blade Runner, où là, c'était du CS80. Donc, les synthés, ça y est, sont bien installés. Là, on est dans les années 77, 78. Mais il y a également les séries télé. Alors, dans les séries télé, comme je vous le disais, on a du droning, on a tout un tas de choses. Et donc, bien sûr, celle-ci. Fortement inspiré d'un groupe qui s'appelle Tangerine Dream et qui a fait redécouvrir le synthé analogique à pas mal de personnes. Une autre, plus récente. Voilà, donc tout ça pour dire, le synthétiseur nous entoure, on en entend partout, que ce soit à la télé, au cinéma, à la radio, bien évidemment. On en entend partout. Mais alors donc, les synthétiseurs, c'est quoi les synthétiseurs? Donc là, on va en parler. Et on va parler de l'histoire du synthétiseur, puisque là, on a vu un peu une application, ce qui nous entoure. Alors là, on va parler un peu espionnage. On va parler de monsieur Lev Sergeyevich Temrin, plus connu sous le nom de Léon Theremin, qui a conçu le Theremin. Alors, quand je dis Theremin, Etherwave est le vrai nom technique de l'appareil. Theremin, c'est on lui donne le nom de la personne. Mais comme il avait vendu le brevet sur son nom, chez Moog, sur le catalogue, réellement c'était marqué Etherwave et pas Theremin. Donc voilà l'instrument, et ça date de 1954, ce document. Hein. Donc,
écarquillé de Lénine, il présente son invention, le Theremin. Il allume l'instrument, lève les bras comme un chef d'orchestre, et sans toucher à rien, il cueille les notes dans l'espace, dessine une mélodie du futur, fantomatique. Tandis qu'il sculpte l'air, les yeux de Lénine s'éclairent. Le chef de l'État envoûté veut essayer l'invention. Dans cette machine, il voit une révolution. À l'oreille de Termen, il chuchote « Le communisme, c'est le socialisme mélangé à l'électricité ». Lénine envoie l'inventeur génial présenter l'instrument en Russie, à Moscou, Vladivostok, en Sibérie, puis en Europe et même aux États-Unis. Partout, Termen est chargé de démontrer le pouvoir de l'électricité, mais surtout celui de la Russie et sa supériorité. Le jour, Léon joue l'agent double, pour les soviétiques comme pour les américains, il espionne, et d'un côté comme de l'autre, il en sait trop. Un jour de 1938, deux hommes à l'accent russe entrent chez lui. Un pistolet braqué dans le dos, il l'emmène. Du jour au lendemain, Léon disparaît, sans laisser de traces. Son épouse, ses amis, Clara, tous le cherchent. Mais Léon n'est nulle part, évaporé.
Donc voilà, donc comme vous avez vu, l'histoire est assez incroyable. Il y a d'ailleurs un livre qui existe, qui raconte vraiment les histoires d'espionnage de Léon Theremin. Des petites choses à savoir sur cette histoire, pourquoi il s'est mis à faire l'agent double, c'est que à un moment donné, financièrement, il s'est trouvé coincé. Donc il a vendu le brevet du Theremin à RCA. Et RCA pensaient le commercialiser dans les magasins, etc., puisque les salles de concert étaient toujours pleines. Ils se sont dit, quelle belle affaire, etc. Sauf que ben, le thérémine, c'est très dur à jouer, cet instrument. Et donc les gens commençaient à l'acheter, très vite les ramenaient, et les ventes se sont arrêtées là. Et RCA avait fait une avance sur les ventes à Léon Thérémine. Et là, ils lui ont demandé l'argent. Et là, il était complètement acculé financièrement. C'est pour ça qu'il a commencé à faire l'agent double pour se faire payer. Et c'est ce qui lui a coûté le goulag, etc. Sur toute l'histoire. Alors, le thérémine, qui est cet instrument, donc qui travaille avec deux antennes, le principe... Alors, je vais pas jouer du thérémine, parce que je suis en train d'apprendre à en jouer. Et c'est long, c'est un peu comme jouer du violon. Avant que ça devienne agréable musicalement, on se fait mal aux oreilles. Et donc, en fait, on travaille... Le principe du thérémine, c'est qu'il génère un dôme de champ magnétique autour, un champ électromagnétique. Et, en fait, en s'approchant de l'instrument, on va créer, en fait, une interférence qui va générer du son.
Cette soirée n'était pas qu'une conférence, puisque le film Drive a été diffusé dans la foulée de la conférence. J'ai d'ailleurs attrapé Gaël Labanti, directeur du festival du premier film à Annonay, dont on vous a déjà parlé dans un autre épisode de Aura des Pâquerettes. Gaël, c'est quoi le film Drive? Pourquoi on en parle aujourd'hui?
Alors Drive, c'est, même si le terme est un peu galvaudé, c'est vraiment un film culte quand il est sorti en 2011, et voilà, et en quelques années, c'est devenu le classique que l'on connaît, qui est devenu culte en fait par plein d'aspects, de par le brio de sa mise en scène, qui est signé Nicolas Winding Refn, qui est un cinéaste d'origine danoise, et qui a, voilà, au cours de sa filmo, voilà, est quelqu'un qui a fait des films formellement et visuellement très, très, très impressionnants. C'est un film aussi qui vaut pour son interprétation et par ce comédien incroyable qui est Ryan Gosling, qui est peut-être le rôle qui a vraiment lancé sa carrière pour le grand public, avec ce rôle un peu minéral qui fait penser au Alain Delon du Samouraï, dans ce côté charismatique avec une économie de moyens assez incroyable. Et puis c'est un film aussi, c'est pour ça qu'on l'a choisi dans le cadre de cette semaine électro, voilà, dont on se souvient de par sa musique, à la fois sa musique originale signée Cliff Martinez, avec ses nappes de synthétiseurs très 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 planantes et enveloppantes, et puis bah, les quelques morceaux de musique utilisés dans le film, notamment ce morceau Night Call de Kavinsky, voilà, qui, quand il est sorti en 2010, n'a connu aucun succès. Nicolas Winding Refn l'utilise pour Drive, et depuis c'est devenu un morceau culte qui a donné lieu à d'autres versions, je pense la plus récente étant le remix voilà, par le groupe Phoenix et par Angèle, voilà, qu'on a pu entendre la cérémonie de clôture des JO. Donc tous ces éléments là, que ce soit la mise en scène, l'interprétation, la musique, font que le film est devenu un film culte.
Merci à nos invités de nous avoir rejoints. On est autour de la table avec l'association Matondi.
Bonjour.
Bonjour.
Aloïs et Mumu. Et Alicia.
Oui.
Coscu-L-U-L-A.
Oui, c'est exactement.
De la Baraka à la Chapelle.
Tout à fait.
Après avoir vu le conservatoire, la Maison de la Musique donc, et des pratiques amateurs, la MJC, mais aussi la SMAC 07, on poursuit avec Alicia donc, pour la Baraka et l'association Matondi. Et en premier lieu, on va parler de ce stage de danse électro, donc organisé en partenariat avec la saison culturelle En Scène, et qui va se passer dans ce magnifique studio de danse, donc la Chapelle.
Exactement. Un studio dans lequel la Baraka est installée depuis 2018, donc qui permet de recevoir plein d'artistes en résidence, de faire de chouettes projets aussi avec les acteurs sociaux et culturels de la ville. Et donc là, on se retrouve pour un stage de danse électro avec la compagnie Mazel Fretten, qu'on a pu notamment découvrir au JO 2024, voilà, qui nous ont éblouis, qui sont, voilà, ils ont une énergie ils sont très énergiques, très précis, et ouais, vachement repérés sur la danse électro. Et donc, on aura, je crois, un membre de la compagnie qui sera là sur 4 jours, de 14h à 18h du 22 avril, du 22 au 25 avril.
C'est ça.
Et puis, et voilà, donc la danse, enfin, c'est une danse en fait qui a plusieurs influences, du hip-hop, du voguing, de la danse contemporaine. Mm-hmm. Et c'est vraiment l'occasion, en fait. Alors, on s'est dit que c'était ouvert à partir de 15 ans et que finalement, ça pouvait être intergénérationnel. Donc, en fait, tout le monde.
Complètement. Voilà, même là, on a ouvert à partir de 12 ans parce qu'on a des demandes.
Parfait.
Donc, ça sera bien. 12 à 77 ans.
Ouais. Oui, voilà.
En fait, à la chapelle, parce que l'idée que. Alors, moi, je travaille pour Abou Lagra et Nawal Aïd Benalla qui co-dirigent la compagnie à Baraka. Et vraiment, la volonté du lieu, c'est de la chapelle, de la Baraka, c'est d'avoir un lieu d'émancipation, de liberté et d'expression.
Aura des pâquerettes.
Aura des pâquerettes.
Exercice très dur, radiophoniquement, de faire se représenter la danse avec de l'audio. Mais ce que l'on peut faire, c'est vous faire entendre un retour d'expérience de Émilie, danseuse à Annonay, que l'on a croisée au détour d'une pétanque électronique. Alors oui, on vous en reparlera plus tard, hein, ne vous inquiétez pas. Émilie, c'était comment alors ce stage de danse ?
Alors ça a commencé mardi, et en gros c'était 4 fois 4 heures de travail, enfin... plus une petite représentation à la fin, avant le spectacle de la compagnie Mazel Fretten, qui est une compagnie de danse électro de ouf, extrêmement énergique et frénétique et monstrueuse. Et du coup, nous, on a travaillé sur ce petit spectacle qui a été chorégraphié par Max, notre prof, qui était vraiment un pédagogue et un danseur incroyable. Le groupe était trop cool.
Vous étiez combien ?
On était 12 et un groupe super mixte avec plein de personnes différentes, des qui pratiquaient la danse déjà et d'autres qui pratiquaient pas du tout, des hommes, des femmes, plus âgés, moins âgés. Et en fait, c'était le bonheur. J'ai l'impression qu'on était tous trop contents de faire ça. En tout cas, moi, c'était vraiment mon cas.
Et la relation à la musique électro dans le spectacle que vous avez monté avec le groupe de 12, c'était cool aussi, cette relation à la musique, pour vous danser ?
C'est essentiel. En fait, notre prof nous a constamment dit qu'il fallait qu'on écoute la musique. C'est un point de repère, en fait. C'est pas forcément possible de danser bien et de se caler sur les autres. C'est vraiment, faut être focus et écouter la musique pour se repérer dessus, les mouvements compter constamment, quoi. Parce que en fait, quand on danse, on est à la fois seul et en groupe, et ouais. On est seul dans un groupe et c'est comment est-ce qu'on gère notre corps avec la musique et qui va compter et qui va faire le spectacle, qui va faire l'effet de groupe, quoi.
Merci beaucoup, Émilie.
Eh bien, merci.
C'est le moment de passer donc à la dernière journée de cet événement 100% électro, puisque le samedi 26 avril,
oui, il y a un truc
sur
de
la
ouf.
Soirée,
une pétanque électro.
Et voilà, c'est l'open air de Matondi.
Ah non, mais Matondi, ils sont forts. Hein. Alors là.
Donc c'est le concept de pétanque électro. Alors Aloïs, Mumu. Qu'est-ce que ça va être ?
Qu'est-ce qu'on va faire ? Une pétanque électronique ?
Eh ben, on peut laisser libre cours à notre imagination, mais tout simplement, on va investir le parc Saint-Exupéry. C'est le parc qui est à côté du lycée Boissy-d'Anglas.
Et à côté de la bibliothèque, oui.
Oui, mais c'est parce que c'est un parc qu'on a beaucoup squatté quand on était au lycée. Voilà.
Oui. Des réminiscences.
Et du coup, on va investir ce parc et proposer 8 heures de DJ set avec 4 artistes différents qu'on pourra vous présenter après. Et le but, c'est que les gens puissent venir danser, chiller. Il y aura aussi une buvette et une petite restauration. Et puissent venir jouer aussi à la pétanque. Avec la musique électronique derrière.
Mais alors, voilà. Pas que la pétanque, on peut apporter tout ce qu'on veut, les boules, les molkies, les transats aussi.
Ouais, c'est ça, l'idée, c'est de proposer une après-midi assez ouverte. Pour revenir sur d'où est venu le pétanque électronique, parce que c'est quand même assez original, on va quand même éclaircir et dire la vérité. La vérité vraie, nous sachons. C'est une idée de Fred Aboura. On en discutait pas mal avec notre camarade de la SMAC 07. Il avait imaginé une journée autour de la musique électronique et de la pétanque où les gens pourraient venir boire l'apéro, jouer à la pétanque et se trémousser sur de la techno. Et du coup.
Se trémousser, danser, hein, si on a bien écouté le stage.
Oui, danser. Danser, expérimenter, performer sur un terrain de pétanque au final. Et du coup, lors de la mise en place, l'organisation de cet événement, on nous a invité à Matondi à venir mettre en place, enfin proposer.
On s'est dit qui de plus compétent pour organiser une pétanque électronique.
Et effectivement, et on s'est dit, punaise, une pétanque électronique, ça c'est bien, ça colle bien avec ma tondie, donc c'est bien rigolo. Donc effectivement, ça s'appelle pétanque électronique, c'est sur un terrain de pétanque, mais évidemment que c'est pas uniquement la pétanque, vous pouvez jouer au molki, vous pouvez jouer...
Et les boules de pétanque ne sont pas raccordées au système électrique, hein, rassurez-nous.
Non,
ce sera la prochaine édition.
J'allais dire apporter vos casques, mais non, ça sera évidemment en toute sécurité.
Oui.
Et ça ne sera pas la pétanque sur le dance floor.
Alors c'est le samedi 26 avril, c'est toute l'après-midi, même la soirée, ça commence à midi.
À partir de midi, ouais.
Voilà, et ça finit à 20h peut-être, ou plus si affinité.
Quoi, avec les quatre artistes, c'est de proposer une progression. Et donc à midi, on commence avec de la dub au soleil, parce qu'il y aura du soleil, on y croit. voilà, et après on continue du coup avec DJ Groove Selector, où c'est un peu un pêle-mêle... disco, électro, sunshine. Et on finit avec deux artistes féminines qui viennent toutes les deux de Lyon. Donc on a Eurydice, où c'est de la trance, c'est assez original. Et ensuite Fatih Boom Boom, que vous avez déjà pu découvrir soit le 8 mars à la Féministeuf, soit sinon au nid du festival en février.
Une fois les platines posées, il ne manquera plus que les boules de pétanque pour s'assurer une véritable pétanque électronique. Nous sommes allés sur place pour en savoir plus. Nous avons pu poser la fameuse question que tout le monde se pose en voulant jouer à la pétanque. Comment qu'on fait pour gagner ?
Étudier le terrain.
Étudier le terrain ?
Travail bien préparé, à moitié fait.
Alors franchement, à la pétanque, c'est le Ricard. Je te jure que plus je bois du Ricard, meilleur je suis. Mais vraiment, à la fin, quand j'ai bu... Je commence à être un peu faite au Ricard, je suis, mais je pourrais faire les championnats de France.
Ah ouais,
ah mais okay. C'est assez déroutant. En tout cas, sur plein de gens, c'est comme ça que ça okay. fonctionne, bon, c'est pas pour rien.
Malheureusement, aujourd'hui, vous ne proposez pas du Ricard,
non, on n'a pas le droit.
Mais la bière fera sûrement une très bonne
alternative. En tout cas, pour le Molki, je pense que c'est avant tout viser un chiffre et se dire qu'on aura celui d'à côté.
Finalement. Merci.
Avec plaisir.
Clairement, il y a une règle à la pétanque, c'est que tu as un pied qui a le droit de bouger un peu, tu vois.
Ah oui.
Donc tu te rapproches progressivement, oui. comme au basket, et tu vises. Je suis très très mauvais à la pétanque, okay. objectivement, je suis très mauvais.
Mais finalement, ça reste une stratégie comme une autre.
Ça reste une stratégie comme une autre, et t'as le droit de lancer comme tu veux. Donc je lance comme au basket. Ce qui énerve les autres, ça fait monter la pression, et potentiellement, je peux gagner 2 points.
Avec les deux mains.
Oui, t'as le droit de lancer comme tu veux, y'a pas de lancer réglementaire.
Tout à fait.
C'est vraiment dans les règles officielles, on a regardé.
Ok.
Parce qu'on était tellement nuls qu'il fallait qu'on connaisse les règles.
Et c'est quoi finalement votre relation à l'adversaire? Comment est-ce que vous arrivez à le déstabiliser peut-être?
Principalement, on est basé sur l'humiliation.
Ah oui.
C'est-à-dire que si on marque un point d'une manière absolument biscornue, on les lâchera pas avec ça.
Voilà.
Jusqu'à ce que moralement ça craque en face, okay. ou que ça prenne trop de bière.
Très bien.
Généralement, ouais, on peut gagner 4-5 points. Sur 12, on est déjà content.
Oui. Merci beaucoup monsieur.
Il n'y a pas de quoi.
J'essaye de ne pas faire 3-0 d'affilée.
Bah moi, je donne des coups de boule sur je lâche une pétanque sur les orteils de mes adversaires.
Et moi, je paye des coups à mes adversaires, comme ça, ils sont ronds, okay. comme les boules. Et
Lorsque je vois une abeille porter le pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie, j'ai presque les larmes aux yeux.
Haute fidélité, New Orthophonics.
Hourra des pâquerettes, une émission qui prend de la hauteur.
Et on va continuer avec Pierre Tabardel.
Et donc, tu vas nous présenter la programmation de cette soirée électro de la SMAC 07.
Oui, qui va être, je dirais pas l'aboutissement, la conclusion.
Oui, ouais, ouais, quasiment, c'est avec vous confiné.
Cette semaine consacrée à l'électro. Et justement, pour être au diapason avec tout ce qui s'est passé dans la semaine, avec la diversité de l'électro, en fait, qui va être exposée, puisque à travers conférences, cinéma, c'est tous les spectacles. Et puis, ces belles après-midi qui vont être partagées autour de la musique. On a voulu terminer avec une programmation qui va... parler de cette diversité de la musique et en même temps avec des artistes qui sont redoutablement efficaces sur scène. Mmh. Donc il y a deux artistes, plus une troisième surprise, mais De Laurentiis qui va ouvrir la soirée. Alors De Laurentiis, c'est une musicienne qui s'est formée d'abord plutôt sur le jazz et qui s'est complètement fondue dans la musique électronique avec une vraie fascination pour les machines et ce qu'elles peuvent apporter. Et c'est une personne qui se présente aussi comme synesthète. Vous savez, c'est les gens qui associent des couleurs et des sons. Il a beaucoup travaillé sur cette thématique-là. Elle a fait un album magnifique il y a, je crois que c'est en 2022 ou 2023. Elle a travaillé sur le lien entre musique classique et musique électronique. Elle a adapté du Ravel, du Satie, euh, du, du Massenet. Et c'est vraiment une musique de très belle facture. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle raconte un peu comme des histoires avec sa musique. Et en même temps, il y a de la puissance. Et ça nous amène complètement dans la danse. Et là, son dernier album, Musicalisme, c'est ce qu'elle va jouer sur scène à la Presqu'île. Donc à partir de 22h, ce que je n'ai pas précisé, comme c'est une soirée électro, on a choisi de la mettre un peu tardive et que chacun soit déjà bien dans l'ambiance. Très très heureux d'accueillir cet artiste là.
En tout cas, ça ouvre la palette des musiques électroniques sur une esthétique qu'on connaît, enfin en tout cas qu'on associe moins aussi aux musiques électro où on est plus dans du boom boom comme tu disais. Là, on est vraiment sur une autre forme, même vocale parfois.
Oui, il y a de la voix. Ouais. Et alors il y a un exemple pour montrer son ouverture d'esprit. Elle a travaillé sur l'album de Isabella Gianni qui a été fait il y a 2-3 ans avec Gaëtan Roussel et Obispo. Mm-hmm. Ça veut dire qu'elle est vraiment capable et elle a aussi fait la création de son dernier spectacle au Transmusical de Rennes, qui est quand même le temple de la musique actuelle et de la création en musique d'aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas les œillères et qui va pouvoir nous faire profiter d'une très belle musique électro. Et puis en deuxième partie, c'est Farfacide.
Ouais.
Je crois bien qu'il est local. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais il me semble qu'il a des attaches à Annonay ou qu'il a grandi par là. C'est une musique qui a des points communs avec celle de Laurentis, dans la mesure où il a un style relativement large, et il va aller dans plein de palettes de musique. Par contre, pour le coup, ça envoie. C'est très sautillant, il y a un côté sautillant. Je pense que les gens vont se retrouver à faire des petits bonds tout le temps, toute la soirée. C'est extrêmement enlevé, il a une grosse, grosse énergie, et je crois que ça fait une dizaine d'années qu'il fait ça maintenant, il commence à beaucoup tourner, et donc nous sommes très heureux d'avoir à la fois le local de l'étape, mais qui revient après un grand tour à l'extérieur, et qui va pouvoir démontrer ici tout son talent.
Merci à toutes et à tous les invités qui sont intervenus dans cet épisode, petit épisode de Aura des Pâquerettes sur le festival 100% électro à Annonay. Et merci à vous d'avoir écouté cette émission réalisée ce mois-ci par Radio d'ici, à cheval entre Saint-Julien-Molin-Molette dans la Loire et Annonay en Ardèche. Vous pouvez retrouver sur le site internet de la Fédération Aura FM l'épisode en podcast et toute la setlist des morceaux utilisés dans cet épisode spécial électro. Bonne soirée ou bonne journée selon le moment où vous nous écoutez sur les ondes de nombre de radios de Aura FM.
Aura des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur. Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Si vous êtes curieuse et curieux de découvrir d'autres territoires, rendez-vous sur aurafm.org.